France Bleu Creuse, le dossier du jour, Josiane Perron.
Bonjour à toutes et à tous. Nous nous intéressons ce matin à la lutte contre la fraude engagée par les caisses d'allocation familiale. Et bien sûr, plus précisément, nous allons nous intéresser à comment cela se passe pour la CAF de la Creuse, votre caisse d'allocation familiale. Cela représente beaucoup de prestations versées pour aider un certain nombre d'entre nous dans nos vies. Des sommes conséquentes, lutte contre la fraude aux prestations versées par la CAF. Nous en parlons avec en direct dans notre studio Jacques Grandmont, Mourcel, directeur par intérim de la CAF, Erwan Lévesque, agent comptable, Isabelle Mouni-Goval, responsable du service prestations. Vous avez une question, vous avez un commentaire, c'est possible dès maintenant au 05 55 52 37 38. Nos invités, ne l'oubliez pas, sont venus vous parler, mais sont venus aussi pour répondre à vos questions.
Le dossier du jour, avec Granit et Marbre Mourier. Plan de cuisine et salle de bain, fabricant depuis 1860. Exposition à la Souterraine et Limoges et sur granit-marbre-mourier.fr.
Bonjour à tous les trois et soyez les bienvenus sur France Bleu Creuse. Jacques Grandmourcel, tout d'abord, aidez-nous peut-être à comprendre pourquoi cette lutte contre la fraude au niveau des CAF.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, on rappellera que la mission première et principale de la CAF, c'est d'abord d'accompagner les familles, les jeunes et participer également donc à l'intérêt des actions en faveur de la solidarité. Et que peut-on dire aussi qu'on intervient déjà auprès de 18 000 allocataires qui représentent près du tiers, si on ajoute les conjoints et les enfants, de la population de la Creuse. Donc la CAF est d'abord et avant tout un prestataire de prestations, justement, et pour l'aide et l'accompagnement des familles. Bien entendu, il s'agit d'argent public. Alors, l'idée principale qui traverse l'ensemble du réseau des CAF, c'est de verser le droit et le juste droit, quoi. Donc, tenter de récupérer les familles pour qu'elles aient le droit dont pour lesquelles elles doivent avoir un bénéfice de notre part, c'est une action essentielle et en regard de cela, bien entendu, ne pas effectivement donner davantage que ce que l'on peut percevoir. Donc il y a des contrôles, beaucoup de contrôles. Un allocataire sur deux fait l'objet d'un contrôle, en gros dans nos institutions CAF, et une toute petite minorité, on va en parler, va un petit peu au-delà des difficultés d'anomalies et d'erreurs, tente de récupérer des prestations auxquelles elles n'ont pas droit. Et c'est, je laisserai effectivement la parole aux collègues pour avoir un peu plus d'informations là-dessus. Voilà la première entrée en matière.
Effectivement, Erwan Lévesque, alors toujours pour que nous prenions bien conscience de la démarche, c'est quelques chiffres peut-être, c'est important le montant de ces fraudes?
Oui, bien sûr. Alors, côté financier, alors, je vais peut-être commencer par le national, puisque les cas de fraude sont en légère progression. En 2017, donc au niveau national, nous avions 45 100 cas de fraude pour un impact financier de 291 millions d'euros.
Ah oui, quand même.
Par rapport, alors en 2016, donc c'était un petit peu moins, 42 959 cas pour 275 millions d'euros. Au niveau local, donc on est à peu près stable. 2017, donc on a recensé 70 dossiers qui ont été donc considérés comme frauduleux pour un impact financier de 448 000 euros. Donc c'est un petit peu moins par rapport à 2016, puisque 2016, nous avions 73 cas de fraude pour un impact financier de 510 000 euros. Voilà. Par rapport à la population allocataire creusoise, donc qui est estimée à 18 000 allocataires, la fraude concerne 0,39% des bénéficiaires en 2017, et au national, elle concerne 0,36% de la population allocataire. Alors, l'impact financier 448 000 euros, redit comme ça, c'est vrai que ça représente... ça représente pas grand-chose. Donc, je vais le comparer, en fait, si vous voulez, au montant des indus qui ont été implantés en 2017 à la CAF de la Creuse, donc qui est estimé à 3 millions d'euros. Donc, voilà, 448 000 euros sur 3 millions d'euros, voilà, c'est la part de la fraude, c'est 15%. Voilà. La fraude représente 15% du total des indus implantés en 2017. Donc, c'est toujours intéressant de faire le rapport. Et également, sur 2017, on a versé un total de 500 millions de prestations, toutes prestations confondues. Alors, au niveau des prestations, quelles sont les prestations concernées principalement? Alors, principalement, ce sont les minima sociaux.
Les minima sociaux,
puisque d'une part, ce sont des montants versés qui sont importants par rapport à d'autres types d'aides. Donc, sur le total,
restez
des prestations.
Restez bien en face de votre micro, s'il vous plaît.
Excusez-moi, pas de souci. Sur le total des prestations, en fait, les minima sociaux donc représentent 74%, en fait. 74% des minima sociaux sont impactés par.
Alors, ce qui serait intéressant, c'est de nous expliquer à quel moment, peut-être Isabelle Mouni-Goval, à partir de quel moment, au niveau de la CAF, on se dit lors de ces contrôles, là, il y a fraude. Est-ce que ça répond à une définition précise ?
Oui, la fraude, il faut d'abord une intentionnalité. Quelqu'un qui se trompe, il peut ne pas savoir.
Ça peut arriver.
Voilà, on dit nul n'est censé ignorer la loi, mais...
Mais
quand même, on voit que nos règles de droit sont très très compliquées. On comprend que les allocataires ne les maîtrisent pas, donc ils ont le droit à l'erreur. Par contre, quand on voit que cette erreur se réitère sur une longue période, au moins 6 mois, que ce sont des montants importants, qu'ils oublient de déclarer un changement. Alors, quand on oublie de déclarer un changement de vie maritale, quand on se met en couple, c'est un peu étonnant.
Je vais me faire un peu l'avocat du diable, si vous le permettez. On peut ne pas savoir qu'il faut le déclarer ou c'est impossible ?
On pourrait, alors on va le tolérer, mais en fait, à chaque fois qu'on écrit aux allocataires, à chaque fois qu'on peut regarder sur lecaf.fr, c'est marqué « Pensez à déclarer tout changement de situation ». C'est vrai que tout est important. Quand on vit à deux, quand on est seul, on n'a pas le même droit aux prestations. Donc, il y a le droit à l'erreur, c'est normal, mais l'intention elle est claire. Quand on demande à un allocataire de déclarer sa situation familiale, que ça fait 3 fois de suite qu'il nous dit qu'il est seul, on fait un contrôle à son domicile, on voit qu'il est en couple, là on voit l'intentionnalité.
Alors, vous venez de dire quelque chose de très important. Lorsqu'on fait un contrôle à son domicile, effectivement, les contrôleurs de la CAF sont assermentés par le tribunal, c'est ça ?
Tout à fait.
Ils ont le droit.
On va déjà dire qu'il existe 3 formes de contrôle différentes. On a des contrôles automatisés, on pourra les développer. On a des contrôles sur pièce, qui sont également ciblés ou pas. Et les contrôles sur place, effectivement, donc les contrôleurs sont assermentés et donc ils ont des règles déontologiques effectivement respectées. Et on dira, et je crois que c'est très important, que le contrôle sur place, dans presque un cas sur 3, voire même davantage, génère non pas un rappel de prestations, mais au contraire une évaluation à la hausse des prestations.
Dans votre sens, d'accord.
Voilà, qui vont au bénéfice des allocataires. Donc, et pour des montants relativement conséquents également.
Allons revenir effectivement dans quelques instants sur ces contrôles. Qu'est-ce qui se passe une fois que la fraude est réellement avérée ? Comment la caisse d'allocation familiale récupère peut-être les sommes indues ? Vous souhaitez poser vos questions, vous souhaitez commenter, c'est au 05 55 52 37 38. police sur France Bleu Creuse.
Le Creuse, le dossier du jour.
Ouais, ce n'est pas la police qui est avec nous, bien loin de là. Nous avons choisi ce matin d'évoquer la fraude vis-à-vis des prestations que vous pouvez éventuellement percevoir de votre caisse d'allocation familiale. Nous en parlons avec Jacques Grand-Mourcel, Erwan Lévesque, Isabelle Mouni-Goval, trois invités qui sont prêts à vous expliquer. Vous avez peut-être reçu un courrier, je ne sais pas si ça existe, on va leur poser la question, un peu désagréable, de la caisse d'allocation familiale. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, vous souhaitez en savoir plus, vous souhaitez commenter aussi ces cas de fraude, vous n'hésitez pas, c'est au 05 55 52 37 38. Avant de rentrer dans le détail de la fraude que vous constatez réellement, Jacques Grand-Mourcel, est-ce que c'est finalement qu'aujourd'hui, pour vous, il y a plus de fraude qu'avant, ou c'est qu'elles sont mieux détectées finalement?
Clairement, il y a eu un travail de fait dans l'ensemble des réseaux CAF pour améliorer le contrôle. On s'inscrit quand même globalement dans une politique nationale qui vise à mettre en place des contrôles pour réguler cet argent public. Donc on a formé des contrôleurs, on a utilisé des moyens de données informatiques qui permettent beaucoup de croisements de fichiers, et notamment avec des partenaires extérieurs. On parlera peut-être de Pôle emploi, éventuellement des liens qu'on a.
Voilà. Effectivement, donc comment ça fonctionne.
On a des moyens effectivement qui se sont accrus, mais déjà depuis quelques années. Mais il faut que ces contrôles s'inscrivent notamment quand même dans le droit et le respect des règles et de ce que l'on doit faire au bénéfice des allocataires. Quoi. Je veux dire, on a parlé de l'intentionnalité pour qualifier une fraude, et c'est vraiment un axe majeur de nos contrôles justement réalisés.
Alors ça ne doit pas être facile quand même d'évaluer qu'il y a réellement fraude intentionnelle. Il doit falloir un minimum de preuves de la part de la CAF, ou alors c'est à l'allocataire de prouver que non, Isabelle Mouni-Goval.
Alors je dirais que ça serait les deux en fait. On a des preuves, il nous faut un faisceau de preuves, des preuves sur des faux documents, on arrive à avoir des faux documents, des déclarations, des fausses déclarations. Donc là c'est vrai que c'est dans les dossiers, tout est tracé dans les dossiers. Et après c'est aussi avec le contrôleur qui est assermenté, il a un entretien, on a une phase contradictoire où il annonce à l'allocataire que son dossier va faire l'objet d'une suspicion de fraude, donc passer en commission, et là l'allocataire peut se défendre, il peut expliquer sa situation et dire bah non, je suis pas d'accord, il peut contester aussi cet état.
C'est quoi la première réaction de l'allocataire suspecté de fraude?
Souvent il y a des pleurs. Voilà, c'est la personne se rend compte alors qu'elle, elle savait qu'elle fraudait. On a des cas comme ça. Oui, je savais, mais c'était pour pouvoir vivre. Donc ouais. Ça reste une fraude, même si bon, c'est quelqu'un qui l'a fait sciemment, mais c'était pour manger. Elle se met à pleurer en disant oui, je sais que je devais pas le faire, mais je pouvais pas faire autrement et je suis désolée. Je vais vous rembourser. Voilà, il y a quand même de la, on dirait. Enfin, il y a des humains quand même.
Prise de conscience,
une
oui.
Bonne prise de conscience. Après, il y en a qui contestent jusqu'au bout. Hein. On a toutes les preuves, on a tout, on a les relevés de compte, on a tous les réseaux sociaux. Merci d'ailleurs. Non, c'est pas vrai. Je ne suis pas en couple. C'est pas vrai. C'est pas moi sur la photo. C'est pas donc.
Ah oui, donc vos démarches vont très loin quand même la recherche de preuves. Hein.
Tout à fait. On a tout un panel grâce à Internet de sites où on peut regarder, où on peut faire des recherches. C'est un travail d'enquête. Hein. C'est vraiment le contrôleur sur place enquête. Hein.
Eh ben, dites-moi, ça rigole pas. Hein. C'est vraiment Jacques Grand-Mourcel. On s'imaginait pas que ça pouvait aller jusqu'à vérifier sur les réseaux sociaux une photo ou quelque chose. Hein.
Alors,
on va faire attention à Facebook. Hein, je vous le dis. Hein.
Et oui, le réseau social, c'est de l'information qu'on délivre à tous, y compris à ceux éventuellement à qui on ne pensait pas. Quoi. Donc, outre le fait que le législateur, effectivement, nous a mis à tous, enfin, tout organisme d'État ou parapublic, les possibilités de croiser des fichiers dont on parlait tout à l'heure, effectivement, on utilise toutes les possibilités. Et Isabelle Mouni-Goval a bien dit deux choses intéressantes. Encore une fois, c'est il faut qualifier l'intentionnalité pour que que le dossier soit qualifié de frauduleux, et elle a évoqué cette commission. Donc, ce qui veut dire qu'il y a, je dirais même le troisième point, c'est le contradictoire. Donc, on fait une démarche qui vise à décrire cette intentionnalité. Petit 2, on engage le contradictoire, donc on n'est pas abusif dans notre qualification. Et ensuite, troisièmement, il y a une commission. Donc, c'est pas un homme tout seul qui décide que... Voilà, et c'est une commission administrative qui aboutit à qualifier in fine le dossier de frauduleux.
Alors, comment ça se passe une fois qu'il y a qualification de fraude? Nous allons en parler dans un instant. Toujours la possibilité pour vous d'intervenir. Vous m'intriguez ce matin de l'autre côté, hein. Vous qui êtes à l'écoute de France Bleu Creuse, vous êtes bien silencieux. C'est pas dans vos habitudes. 05 55 52 37 38. Si vous souhaitez intervenir, poser une question, demander une vérification simplement comme ça. Vous n'hésitez pas. France Bleu Creuse vous accueille et c'est tout de suite après le nouveau titre de Zazie qui sort aujourd'hui, Speed.
France Bleu Creuse, le dossier du jour, 05 55 52 37 38.
Depuis le temps que tu dors, ça fait des mois que tu hibernes, que tu sors pas. Sous tes airs douces mal léchés,
nouveau titre de Zazie qui sort aujourd'hui, Speed.
France Bleu Creuse, le dossier du jour.
Et dans une poignée de secondes, nous retrouvons nos invités représentant la Caisse d'allocation familiale de la Creuse. Il est question ce matin de la fraude concernant certaines prestations. Et dans quelques instants, nous répondons également à vos questions laissées sur la page Facebook de France Bleu Creuse.
Le dossier du jour avec Granit et Marbre Mourier. Plan de cuisine et salle de bain. Fabricant depuis 1860. Exposition à la Souterraine et Limoges et sur granit-marbre-mourier.fr.
Vos questions sur la page Facebook de France Bleu Creuse, mais aussi au bout du fil 05 55 52 37 38.
Gamme vert.
Oh, j'adore les orchidées. Merci ma chérie.
De rien maman. C'est qui ta fille préférée déjà?
Il y a un petit producteur de bonheur en chacun de nous. Et Gamme Vert le fait grandir grâce à son large choix d'orchidées Phalaenopsis et ses conseils d'experts pour en prendre bien soin. À bientôt en magasin ou sur gammevert.fr. Gamme Vert, numéro 1 de la jardinerie.
Ouh là là, piétinement, chaleur, mes jambes sont lourdes et douloureuses. Ma réponse, c'est mon Vénamitol. Soulagé bien dans mes jambes, Vénamitol stimule le retour veineux et en plus protège mes veines. Vénamitol, l'efficacité en marche. Médicament à la troxérutine, lire attentivement la notice. Demandez conseil à votre pharmacien. Si les symptômes persistent, consultez votre médecin.
Optique 2000, pour moi, les meilleurs opticiens. Valérie Houzet, à Montreuil-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais, nous dit pourquoi.
On ne me vend pas, mais on me conseille des lunettes. On ne cherche pas à me faire une facture énorme, on cherche à répondre à mes besoins. Et moi, j'ai des gros soucis de vision. Je sais qu'eux, ils vont faire attention à tout, être sûr que si j'ai mes lunettes solaires, ça sera la bonne teinte, ajustée à mon problème. Ils sont vraiment là pour m'apporter le maximum. Je ne retrouverai pas ce conseil-là ailleurs.
Christophe Testu, l'opticien Optique 2000 de Madame Houzet, à Montreuil-sur-Mer.
Le plus important pour nous, c'est de satisfaire notre client, donc de bien comprendre ses problèmes de vision pour que le choix des lunettes et des verres soit en totale adéquation avec ses attentes. Et Optique 2000 est partenaire de nombreuses mutuelles, donc nous gérons tout pour nos clients.
Alors Madame Houzet, contente d'Optique 2000?
Oui, en plus c'est parfait, il s'occupe de tout.
Optique 2000, c'est le leader français de l'optique avec 1200 magasins près de chez vous.
Dispositifs médicaux, demandez conseil à votre opticien.
France Bleu Creuse, le dossier du jour.
Consacré à la lutte contre la fraude engagée par la Caisse d'allocation familiale de la Creuse, comme au niveau des autres CAF d'ailleurs de France. Vos questions par téléphone, mais aussi sur la page Facebook de France Bleu Creuse. Isabelle Mouni-Goval, je crois que c'est vous qui allez avoir la réponse à la question de Francine. Comment sont gérées les dénonciations? Il y a des dénonciations?
Et oui, il y en a. Alors, il n'y en a pas tant que ça. Il y a deux sortes de dénonciations. Il y a la dénonciation anonyme. Donc là, en fait, si elle est complète, si on a vraiment beaucoup d'éléments, on peut regarder. On a des portails sur les partenaires, sur Pôle emploi. On peut essayer de regarder s'il y a vraiment quelque chose à contrôler. Et après, il y a aussi quand même les signalements d'enfants en danger. Là, forcément, une dénonciation, même anonyme, enfants en danger, on la prend directement par notre service d'action sociale en lien avec la protection maternelle infantile. Après, on a aussi des dénonciations non anonymes. Donc là, on renvoie un courrier à la personne qui nous écrit en disant « Attention, il peut y avoir des dénonciations calomnieuses et vous encourez des peines de prison ou des amendes. » Donc, on demande s'ils maintiennent cette dénonciation ou pas. En règle générale, il n'y a pas de maintien de dénonciation quand on envoie ce genre de courrier.
Vos questions, vos interventions également par téléphone. Bonjour Marie-Hélène. Marie-Hélène ? Allô ? Ah bon, Marie-Hélène, ça a coupé. Je vais vous inviter, Marie-Hélène, à recomposer le 05 55 52 37 38 si vous souhaitez poser votre question ou commenter un point ou un autre auprès de nos invités. Donc concrètement, alors peut-être Erwan, je ne sais pas, en tant qu'agent comptable, comment ça se passe lorsque la fraude est avérée? Vous remontez le dossier pour calculer ce que ça donne? Comment ça se passe?
Alors, à ce stade, donc, nous ne sommes plus côté recouvrement amiable, donc nous sommes côté contentieux. L'estimation en fait, du préjudice financier est établie, puisqu'il me semble que l'allocataire, de toute façon, est notifié du montant. Concernant la fraude, les moyens de recours, donc, il y a dans un premier temps la CRA. Mais la
c'est
CRA,
quoi la CRA?
Alors la CRA, c'est la commission de remise de dette, en fait, remise amiable. un cas de fraude, ça n'aboutit pas. Il n'y a pas de remise de dette sur des cas de fraude. Donc là, on recouvre la majorité des indus, fraude, en sachant que, donc ça fait partie des sanctions que nous avons la possibilité d'appliquer, des amendes administratives, qui viennent en plus donc des indus frauduleux. Donc pour donner des chiffres...
Bien en face de votre micro, Erwan, s'il vous plaît.
Décidément.
Ah, je ne sais pas si vous lui en voulez à ce micro.
En 2017, en fait, nous avions appliqué 59 pénalités donc sur les 70 dossiers qui ont été considérés comme frauduleux, pour un montant de 44 000 euros, quand même. Donc c'est relativement important. Donc ce sont les indus plus pénalités sont recouvrés en priorité.
Alors passez-moi l'expression, mais on ne plume pas un œuf. Vous arrivez à récupérer cet argent ?
Alors oui, alors je tiens quand même à préciser une chose, si l'allocataire est en difficulté, nous tenons compte de sa situation, nous mettons quand même des plans de remboursement abordables, mais en cas de fraude, on ne fait pas de cadeaux. Parce qu'un allocataire classique qui est un indu, donc qui n'est pas considéré comme frauduleux, ce serait pas équitable. Voilà,
Isabelle Mounigoval.
Oui, alors on fait des plans de remboursement personnalisés, mais c'est vrai que sur la fraude, comme dit mon collègue Erwan, on fait pas de cadeaux, mais donc la sanction, la pénalité, c'est une amende, donc c'est en plus et c'est ce qui est recouvré en premier sur les prestations. Mmh. Après, on a d'autres moyens aussi de récupérer l'argent. On peut faire des saisies sur salaire si la personne est salariée, des saisies sur les indemnités journalières versées par la Caisse primaire d'assurance maladie ou Pôle emploi. Après, en autre sanction, on a aussi le dépôt de plainte. Ça, jusque-là, on dépose plainte auprès du tribunal, auprès du procureur, et parfois, c'est le résultat, c'est 2 mois de prison avec sursis, 6 mois de prison avec sursis, des amendes supplémentaires, des dommages et intérêts pour la CAF. Trop longtemps, on a entendu dire « tu fraudes la CAF, c'est pas grave, t'auras qu'à rembourser ». Oh, dis donc, là, la sanction... Non, il y a vraiment des sanctions. On veut montrer que on paye, on aide les gens, bien sûr, mais en contrepartie, si on fraude, on n'en sort pas comme un allocataire qui s'est juste trompé.
Jacques Grand-Morcel, vous souhaitez ajouter
Oui, donc juste pour peut-être synthétiser ce qui vient d'être dit, c'est donc non seulement on récupère les indus, on applique une sanction donc financière administrative et le cas échéant de l'ordre de 17, 18, enfin un peu moins d'une vingtaine de dossiers par an, il y a dépôt de plainte. Donc dans ces dossiers, lorsque ça va donc en correctionnel, là on dépend du code pénal et il peut y avoir des sanctions comme l'a évoqué Isabelle Mounigoval sur la personne, donc c'est-à-dire l'emprisonnement avec sursis et à nouveau donc une amende pénale. Donc ça fait l'indu, l'amende administrative et éventuellement la demande correctionnelle.
En revanche, je suppose qu'il peut y avoir un plan de remboursement d'établi, non ?
Oui, tout à fait.
Parce que je vois mal l'un de vos allocataires avec plus de 40 000 euros à rendre.
Il est négocié avec l'allocataire, oui.
Est-ce que ça peut être pris, entre guillemets, sur des prestations qui seraient réellement dues et versées par la CAF ?
Tout à fait, c'est pas parce qu'un allocataire a fraudé qu'il n'a plus de droits, s'il a encore des droits de par sa situation, on continue à verser. Par contre, en effet, on va se servir sur ces prestations, en laissant un minimum, bien sûr, on va pas laisser les gens sans argent pour vivre, mais on se sert en premier sur les prestations, tout à fait.
Et je ne sais plus si nous l'avons dit au début d'émission, il y a une prestation principalement qui est visée à...
C'est le RSA.
Le RSA, oui, vous aviez dit les minima sociaux.
Voilà, les minima sociaux et le RSA, c'est vrai qu'on a beaucoup de bénéficiaires et c'est très sensible, c'est une prestation sensible, souvent les gens n'ont que ça pour vivre, donc on en sert beaucoup en fait, donc forcément c'est cette prestation qui est la plus impliquée.
Et donc à ce moment-là, c'est que les gens oublient de dire, je ne sais pas moi, qu'ils ont du travail ou...
Oui, on peut dire qu'ils oublient.
Moi je dis oublient.
Oui, ils oublient un certain temps, alors après ils oublient pendant un an, ils oublient pendant 2 ans, et puis on fait notre petit échange avec les impôts, pour savoir les revenus de l'année N-2. Donc là, on était sur les ressources 2016.
À condition que ce soit à jour du côté des impôts.
Et voilà.
Si... Là, ça, c'est vraiment risqué quand même.
Là, c'est vraiment risqué. Surtout que maintenant, l'employeur déclare les revenus aux impôts. Après, c'est à l'usager de valider sa déclaration d'impôt. Il y a quand même des moyens, en fait, de recherche. Et quand on fait le lien entre les revenus de 2016 et qu'on regarde sur les déclarations de RSA que la personne n'a rien déclaré, là on dit « Oh, c'est un oubli qui a duré 2 ans ». Donc oui, a priori c'est un long oubli. Donc là on peut se demander s'il n'y a pas une intentionnalité.
Tout de suite nous allons accueillir Marie-Thérèse, bonjour.
Oui, bonjour Josiane.
Nous vous écoutons.
Oui, moi j'ai une petite question qui n'a pas trop de rapport avec la fraude, mais enfin c'est juste une question que je me pose.
Allez-y.
Donc voilà, j'ai une petite mamie qui habite en face chez moi, qui a 80 ans là, qui avait déposé un dossier d'APL. Et normalement, mon mari avait fait une évaluation sur Internet, elle avait droit quand même à une somme. Là, on lui a répondu qu'elle avait droit à 15 euros, mais qu'elle ne les aurait pas parce que c'était pas assez gros comme somme.
Isabelle Mounigoval, vous avez la réponse?
Alors oui, j'ai la réponse. Malheureusement, en fait, on a un seuil de versement au niveau des aides au logement. Et ce seuil de versement est de 15 euros. Si le montant de l'aide au logement est inférieur à 15 euros, il n'est pas versé. Mais ce seuil devrait passer à 10 euros. Donc il est possible que cette personne puisse, alors ça sera automatiquement, qu'elle puisse avoir quand même son droit à l'aide au logement qui est, s'il est supérieur à 10 euros.
D'accord. Mais on n'a pas trop compris comment c'était calculé, puisque mon mari avait trouvé plus de 100 euros, lui.
Alors après, tout dépend de la location. Elle est locataire de sa maison?
Oui, elle est à un pavillon Creusalis, là.
D'accord.
Elle a presque 500 euros de loyer, puisqu'on a le même.
D'accord. Donc après, tout dépend aussi des revenus annuels au niveau de... Donc si c'est une personne âgée, elle doit avoir une pension de retraite.
Elle a une petite retraite, oui, qui est autour de 1000 euros.
Et oui. Elle n'a pas d'autres revenus?
Non.
Alors après, bon, c'est un calcul, alors je vous passe la formule de calcul, parce que ça fait un peu mal à la tête, mais c'est un calcul en fonction de la zone d'habitation, en fonction des revenus annuels, donc là, en ce moment, on se base sur les revenus 2016, de la situation familiale, du type de logement, Oui, après, comme ça, si vous voulez me laisser les coordonnées hors antenne, je pourrais regarder et puis recontacter la personne pour faire un point. Mais bon, a priori, si on a bien enregistré les bons éléments, le droit doit être juste.
Est-ce que vous souhaitez, Marie-Thérèse, laisser vos coordonnées hors antenne?
Que je pensais, vous pensez qu'on peut prendre rendez-vous à la CAF?
Ah oui, tout à fait.
Pour qu'on revoie son dossier?
Tout à fait. Tout à fait. Après, vous pouvez regarder sur Internet. Vous pouvez prendre rendez-vous sur Internet, sur lecaf.fr.
D'accord. Ben, je vais lui en parler. Et pour la PL, il est tenu compte de la reversion?
Oui.
D'accord.
C'est ça. Alors malheureusement, en fait, nous en CAF, il y a des revenus qui ne sont pas imposables, mais que l'on prend quand même dans le calcul des prestations. Donc ça peut être ça la différence.
D'accord. Oui, mais elle n'avait pas de reversion, puisque de toute manière, ils n'étaient pas mariés. Bon, elle ne touche rien de son compagnon.
D'accord. D'accord.
Donc voilà, elle est seule. Bon, bah, écoutez, je vous remercie bien.
Je vous en prie, madame.
Merci. Bonne journée, Marie-Thérèse.
Le dossier du jour, avec Granit et Marbre Mourier. Tout pour le cimetière. Fabricant depuis 1860. Exposition à la Souterraine et Limoges. Et sur granit-marbre-mourier.fr.
Et nous arrivons déjà au bout de ce dossier. Jacques Grand-Mourcel, je vous laisse le mot de conclusion pour aujourd'hui sur ces fraudes.
Oui, alors je rappellerai un petit peu ce que j'ai dit en entrée d'émission, c'est que en fait la CAF vise d'abord et avant tout à verser le juste droit, voilà, ce à quoi on a le droit, ni plus ni moins, et du coup ça engendre des contrôles, un allocateur sur deux fait l'objet d'un contrôle, la fraude c'est très très minoritaire, et en revanche par contre, sur ces dossiers, on est extrêmement vigilant et quand même je veux dire, assez, voilà, on observe on va dire l'arsenal en fait qui est en notre pouvoir pour éviter. Donc si j'ai un message à faire passer, c'est aux allocataires, déclarez tous vos changements de situation, c'est juste primordial. On le dit sur CAF.fr et j'en profite aujourd'hui de le rappeler. C'est juste très important et surtout, ben, ne tentez rien en matière de fraude. On a des moyens quand même de détection qui aujourd'hui s'améliorent.
Voilà. Effectivement, ça donne pas envie. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir rejoint en direct France Bleu Creuse. Demain, c'est Marie Brocry qui partagera la matinée avec vous et dès 9h, mieux comprendre et peut-être aussi mieux se préparer à la suppression du tarif réglementé. Qu'est-ce que cela peut changer, par exemple, sur vos factures d'électricité? Des infos, des conseils à suivre demain avec notre invité Jacques Robert, UFC Que Choisir.
France Bleu Creuse, le dossier du jour, à retrouver sur francebleu.fr.